Le deuxième volet des chemins de la musique, aujourd'hui le continent Beethoven avec Bernard Fournier et Miguel da Silva.
Le quatuor à cordes est une des formes supérieures de l'expression musicale. L'esprit créateur s'y dépouille de tout ce qui n'est pas sa vérité profonde. Sa loi est celle de l'absolue concentration. Il bannit l'emphase, l'effet, la virtuosité gratuite et requiert la maîtrise totale de la matière et de la construction. Alors que le piano, comme d'ailleurs l'orchestre, offre une pâte sonore riche et bouillonnante dans laquelle on peut tailler des figures et des formes, on se trouve face au quatuor dans la nudité. Celle du son, de quatre lignes pures et frêles, et celle de soi-même. Ces mots d'André Boukhoréchiev ouvrent un article de 1988 sur les quatuors de Beethoven. On les retrouve au dos de la pochette du disque que les Isaïe viennent de consacrer à l'intégrale de la musique pour quatuor à cordes du même André Boukhoréchiev. Nous aurons l'occasion d'y revenir vendredi. En attendant, c'est un vaste continent que nous allons aborder aujourd'hui, et pour beaucoup, dont nos invités, l'apogée du genre. Beethoven, près de deux siècles après, continue d'enflammer les passions, il hante les consciences et incite au creusement analytique. En ce deuxième épisode des Chemins de la musique consacré au quatuor à cordes, nous retrouvons Miguel da Silva, altiste du quatuor Isaïe, et Bernard Fournier, auteur d'une esthétique et d'une monumentale histoire du quatuor chez Fayard. Beethoven, opus 131, 14e quatuor, un nouvel art de la mémoire. Le second grand moment du quatuor, c'est donc Beethoven, Bernard Fournier. Vous avez consacré d'ailleurs, vous avez fait une histoire du quatuor à cordes, et le premier tome est presque un livre sur Beethoven.
Je consacre effectivement 700 pages à Beethoven sur les 1200 du premier tome de l'histoire qui va de Haydn à Brahms. Parce que je pense effectivement que Beethoven, c'est véritablement l'Himalaya du quatuor à cordes. Il l'est de deux points de vue, il l'est à la fois par la qualité exceptionnelle de ses œuvres, tant sur le plan du langage, de la forme que de l'expression, qu'également de l'influence qu'il a exercée sur la postérité. Donc Beethoven est l'Himalaya du quatuor à cordes parce que c'est aussi l'observatoire à partir duquel on peut regarder l'ensemble de l'histoire du quatuor jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Beethoven a évidemment synthétisé les expériences géniales de Mozart et Haydn, je prendrai un exemple. Haydn plus exactement, a écrit une forme sonate essentiellement monothématique, Mozart une forme sonate bithématique. Beethoven, lui, a intégré les deux en créant des formes qui reposent sur une cellule génératrice et qui développent le concept de bithématisme dans une musique qui joue essentiellement de confrontation et d'opposition. Sur le plan esthétique, Haydn était un compositeur qui était imprégné de cette gravité confiante qui lui venait des Lumières. Mozart était un angoissé par rapport aux problèmes de la vie, de la conscience, de la mort, et toutes ces grandes pages le montrent. Et Beethoven, lui, représente véritablement l'inquiétude, la naissance de l'inquiétude en ce début du 19e siècle. C'est un Kantien qui est conscient du rôle que peut jouer l'artiste pour exprimer le jeu. Donc avec Beethoven, c'est l'irruption du jeu, un jeu puissant, mais un jeu inquiet, un jeu puissant, mais un jeu inquiet. Et je dirais que l'histoire de la musique de Beethoven, et notamment de ses quatuors, c'est l'expression d'une interrogation qui va ensuite proliférer et prendre une autre forme chez les compositeurs de la fin du 19e siècle, mais qui chez lui va finir par déboucher sur des réponses. Beethoven détruit un petit peu tout, pose des questions, s'angoisse, mais il y a une volonté de faire chez lui qui fait qu'au bout du compte, il reconstruit, et que son œuvre est construite presque toujours vers des synthèses culminatives. Alors il y a quelques et rassurantes, il y a quelques exemples, mais où la question reste posée. Et précisément dans le quatuor opus 135, où le muss es sein ne reçoit pas véritablement de réponse avec es muss sein. C'est une fausse réponse, et lorsque le deuxième grave revient au centre du mouvement, l'apparition du es muss sein à l'intérieur du muss es sein, qui l'écrase, montre bien que c'est la question qui subsiste. Donc l'inquiétude beethovenienne est quelque chose de fondamental, et cette inquiétude a nourri précisément la démarche esthétique de tous les grands compositeurs qui l'ont suivi. Revenir à Beethoven, donc on pourra peut-être parler maintenant de ce qu'il a apporté en pratique au quatuor à cordes. Ça tient en un mot, pour moi, qu'on pourra développer, je dirais, c'est l'écriture dialogique qui s'oppose à la conversation classique.
Alors précisez effectivement, que veut dire écriture dialogique ?
Alors écriture dialogique, ça veut dire ceci, ça veut dire que Beethoven a été conscient précisément des possibilités d'homogénéité du quatuor à travers sa sonorité, et de ce que l'homogénéité pouvait permettre l'hétérogénéité, je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Et à partir de là, il a envisagé l'écriture, la conduite des quatre voix, comme une possibilité d'interaction permanente entre les quatre voix, à la fois horizontale et verticale. C'est-à-dire que l'on trouve, c'est-à-dire que avec Beethoven, tant le monologue intérieur pur des quatre voix unies, que le dialogue le plus éclaté, comme par exemple le jeu sur une cellule de trois notes dans le final de l'opus 59 numéro 2, tant, pour revenir au premier exemple, le début du lento assai de l'opus 135 où les quatre voix sont unies, que cet exemple ludique de l'opus 159 numéro 3, sont régis par l'esprit dialogique, c'est-à-dire le fait de vouloir qu'à chaque instant les voix coopèrent, qu'il y a toujours une petite note qui se glisse d'une voix vers l'autre, un petit motif qui passe ici ou là. Et ce dialogisme n'est pas seulement le transfert d'une voix à l'autre, c'est la transformation permanente de ce qui se passe. Et d'autre part, entre ces deux extrêmes, c'est le conflit, la mise en scène du conflit permanent entre des voix. Parce que Beethoven est essentiellement un personnage conflictuel, je pense avoir essayé de le dire, et ça se traduit par des oppositions, qui sont des oppositions diachroniques entre des masses, mais aussi par des oppositions synchroniques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe des choses différentes. Si on prend par exemple le premier mouvement du 15e quatuor, Beethoven réinjecte le mouvement, le thème de l'assai sostenuto sur le groupe thématique du premier mouvement qui est indépendant de lui. Il n'est pas tout à fait d'ailleurs, mais il y a en tout cas pour celui qui écoute cette impression de deux êtres différents qui parlent de deux choses différentes. Et ça c'est une des grandes innovations de Beethoven, donc cette manière de concevoir le dialogue à quatre comme la quintessence de toutes les possibilités d'association et de confrontation des voix, à la fois horizontales et verticales.
Da Silva, vous avez parlé de Beethoven en disant que c'est un musicien du chaos.
Tout à fait, oui. Oui, de manière très, 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 très pratique. C'est la première fois dans l'histoire de la musique où, en tant qu'interprète, vous voyez marqué sur la partition des nuances piano, donc faibles, qui sont contiguës à des nuances fortées, fortes, voire fortissimo. C'est-à-dire que sur l'instrument, vous allez devoir passer d'une nuance d'un côté introverti à un côté extraverti, mais sans aucune préparation. Chez Mozart, chez Haydn, vous aviez un thème qui était piano, un second thème qui pouvait être forte ou inversement. Vous aviez une préparation. Là, maintenant, c'est la musique de la rupture. Et cette rupture est d'autant plus significative qu'elle évolue suivant ces différentes périodes. Et c'est ce que je trouve le plus extraordinaire chez Beethoven, parce que ces six coutures de l'opus 18 sont une sorte d'hommage et de synthèse entre ce qu'a pu écrire Haydn et Mozart. Que ce soit l'opus 18 numéro 1, où vraiment c'est la musique, une musique assez verticale, je veux dire, enfin verticale dans le sens où je trouve que Haydn, par rapport à Mozart, par exemple, a une écriture un petit peu plus verticale que horizontale. Donc là, on a l'impression que Beethoven nous montre qu'il a compris et qu'il écrit les choses en hommage à Haydn. Dans son cinquième quatuor opus 18, il va reprendre exactement les mêmes cadres que chez 464 de Mozart en la majeure. C'est exactement la même tonalité, c'est exactement le même cadre, juste l'histoire racontée à l'intérieur va changer. Ça va être une histoire un petit peu à la Beethoven. Donc ça, c'est sa première partie, pour dire qu'il synthétise un petit peu l'esthétique et la façon de composer de ces deux grands compositeurs qui, dans l'histoire de la musique, sont passés un petit peu avant lui. Sa deuxième période, alors là, on va pas encore tout à fait faire exploser le cadre, la forme du quatuor à cordes, mais en tout cas, on va faire, entre guillemets, d'une façon assez vulgaire, exploser les interprètes. C'est-à-dire que ça, on va sentir complètement dépassé instrumentalement. Et encore, comme le disait Bernard, cette écriture dialogique entre les instruments va être poussée à presque une forme de virtuosité. Je veux dire, quand on prend la cadence du premier violon, par exemple, de l'opus 59, numéro 1, juste avant le final, avant le thème russe, c'est pas plus facile à jouer que la cadence du concerto de Beethoven. Hein? C'est une écriture absolument incroyable. Donc là, vous allez avoir une deuxième période qui est une forme de jubilation de l'interprète, enfin une forme de virtuosité. Et puis vous arrivez à une dernière période où alors là, les cadres, encore une fois, explosent complètement à partir de l'opus 95. Les Viennois de l'époque, lorsqu'ils entendront l'œuvre, diront encore un thème à la Beethoven qu'on ne peut pas chanter. Parce que, alors que Mozart, on pouvait se souvenir d'un thème, là, Beethoven, c'est un thème qui est lourd de c'est une gestation difficile. Je veux dire, on sent que les choses sont écrites, sortent au forceps, vraiment. Enfin, c'est une chose incroyablement difficile, un accouchement incroyablement difficile. Et alors là, vous allez, après, avec les grands opus, que ce soit l'opus 130, moi, au niveau du côté novateur, je ne vois, de manière un peu simpliste d'énoncer les choses, mais je ne vois pas une grande différence entre le scherzo de l'opus 130 et le scherzo du quatrième quatuor de Bartok. Je veux dire, la complexité rythmique est la même. Si on devait classer, si on devait me demander, et Bernard le définit très bien, dans quel tiroir je devrais classer Beethoven, je pourrais juste dire que c'est un compositeur moderne.
Évolution de l'interprétation de ces quatuors de Beethoven, qui ont été jugés très importants, je crois, dès le départ, même si mal compris,
et repris par à peu près tout le monde, de terrain d'analyse.
De l'interprétation, au sens de l'analyse.
À deux niveaux, puisque à mon avis, l'interprétation des musiciens est une forme d'analyse aussi.
L'interprétation, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les derniers quatuors de Beethoven ont été quasiment ignorés du public et même des interprètes pendant presque tout le 19e siècle. On a joué, je crois, que 7 fois la Grande Fugue à Vienne dans tout le 19e siècle. Donc c'est vous dire quel est le problème. Par ailleurs, ces quatuors n'ont pas nécessairement été joués comme ils l'auraient dû. Et là, il y a une anecdote intéressante, c'est que lorsque le quatuor des frères Müller est venu à Paris jouer les quatuors de Beethoven dans les années 1835, Fétis a fait une critique en disant que il jouait vraiment très bien, mais que c'était tout à fait dommage parce que le premier violon ne ressortait pas assez et qu'il faudrait qu'il brille davantage au milieu de ses confrères. Alors c'était n'avoir rien compris à l'écriture des derniers quatuors de Beethoven. Et il faut rappeler qu'en France, à l'époque, Bayot jouait debout avec son quatuor. Donc, ça sur l'interprétation instrumentale. Maintenant, sur l'interprétation du sens de cette musique-là, eh bien, je pense que les Razoumovsky étaient une première révolution dans l'histoire du quatuor, une véritable révolution, les trois Razoumovsky. Et les gens s'en sont aperçus, et ils l'ont finalement accepté, parce que c'était une révolution qui allait dans le sens de l'élargissement, de l'approfondissement et en même temps de l'intériorisation. Quel mouvement plus poignant comme expression du moi intime que le mouvement lent adagio mesto du 7e quatuor de Beethoven? Quelle plus grande puissance que le début de ce même 7e quatuor avec ce crescendo de 19 mesures qui monte à un crescendo généralisé d'intensité, de masse, de voix. On commence par 3 voix avec un petit accompagnement et tout s'embrase pour arriver à une puissance extraordinaire. Donc avec cette époque du quatuor, Beethoven ne fait pas éclater les formes, comme il le fera avec les derniers, mais il les agrandit immensément. C'est-à-dire qu'à la fois en durée, les quatuors de l'opus 59 durent 45 minutes au lieu des 20 minutes des quatuors de Haydn, et il introduit aussi de nouvelles formes. Et il le fait d'ailleurs on peut dire que l'équateur Razoumovsky, c'est en quelque sorte l'apogée de la forme sonate. C'est-à-dire que tout va être envisagé, que ce soit les mouvements lents, les finales, même les scherzos. Le scherzo de plus 50, numéro 1, est imprégné par l'esprit de la sonate. Donc l'ensemble de l'écriture formelle de Beethoven consiste en une grande expérience sur ce que peut faire la sonate. Il essaye d'ailleurs d'intégrer d'autres formes à la sonate, comme la variation, et la fugue avec le final de l'opus 59 numéro 3. Donc il y a une espèce, disons que cette époque, c'est une espèce de synthèse magistrale et d'ouverture vers plus d'intensité, vers plus de profondeur de tout ce qui a été fait avant.
Sans expliquer ce qu'est la forme sonate, que j'imagine la plupart des auditeurs ne réalisent pas vraiment ce que c'est. Ce qu'on peut comprendre dans un premier temps, c'est qu'il y a une sorte de contradiction intéressante entre la volonté de travailler une forme, de la perfectionner, au risque au bout d'un moment de la figer, et ce fameux chaos qui, à travers un certain nombre de choses plus ou moins inconscientes à l'intérieur de ce travail, va la pulvériser en même temps qu'on la construit.
C'est ça, mais il faut bien comprendre que la liberté, c'est l'acceptation des limites. Ou plus exactement, la liberté, c'est l'acceptation d'un cadre à partir duquel on essaye de jouer aux limites. L'intérêt, donc il y a deux façons d'être innovateur. Beethoven le sera de la deuxième façon dans les derniers quatuors, mais au niveau des Razoumovsky, il l'est en jouant aux limites. C'est-à-dire qu'il crée une tension extraordinaire entre ce qui est et ce qui peut être. Et donc il pousse, Miguel le disait, les interprètes aux limites de leurs possibilités, parce que l'interprète, il est aux limites de ses possibilités au point de vue de la virtuosité, au point de vue de l'intensité expressive aussi, ce qui est tout à fait autre chose. Et la forme elle-même est à ses propres limites dans son organisation du temps. elle éclate en durée, elle éclate dans l'espace, parce que Beethoven, là, on n'en a pas parlé, l'appropriation de l'espace dans le quatuor beethovenien, c'est merveilleux. On parlait une autre fois, je crois, du quatuor vocal et de l'organisation du quatuor en quatre voix qui chacune se répartissent les registres sur six octaves, en gros. Eh bien, disons que Beethoven va véritablement... appréhender ce geste et le montrer dans ses quatuors. Si on prend par exemple le mouvement lent du 8e quatuor, on voit une ligne qui parcourt entre les différents instruments, une ligne continue, coopérative entre les six instruments, à travers lesquels Beethoven décrit l'ensemble de l'espace et avec une dimension spirituelle tout à fait extraordinaire, puisque c'est vraiment l'union du haut et du bas, du spirituel et du matériel, et c'est une espèce de vision d'échelle de Jacob entre la terre et le ciel. Donc il y a cette espèce de dimension d'explosion de tout ce qui est, et en même temps, je le disais tout à l'heure, dans ce même quatuor, une manière de mettre en regard quelque chose de lisse, d'uni, de rassurant, et quelque chose de rugueux, d'âpre et d'inquiétant, qui est la problématique générale de Beethoven.
Miguel da Silva, est-ce que quand on interprète les quatuors de Beethoven, on doit être d'une certaine manière dans une attitude presque janséniste, on dirait maintenant, ou du moins avoir une certaine âpreté, une certaine dureté, ne faire aucune concession et ne pas jouer sur ce qui pourrait être une séduction immédiate?
Je crois que lorsqu'on fait une intégrale les quatuors de Beethoven, de toute façon, on rentre dans un monde. On rentre dans un monde où la notion du dépassement de soi et la notion du dépassement de ce qui est décrit devant vous est très très important. La séduction chez Beethoven, je ne définirais pas les choses comme ça. Dans séduction, pour moi, il y a quelque chose un petit peu de réducteur. Je ne sais pas pourquoi. Chez Beethoven, je parlais plutôt d'une chose essentielle. Tout ce qui est écrit sur la partition, tout ce qui est dit, et on a l'impression, est vraiment essentiel. Donc... maintenant, les choses sont à appréhender d'une manière instrumentale. Les choses sont différentes. Quand on se prépare pour jouer un quatuor de Beethoven, on se prépare différemment. Pourquoi ? Encore une fois, parce que les signaux sur la partition à interpréter dépassent, je trouve, le cadre du quatuor. Surtout dans les derniers quatuors de Beethoven. Dans les Razumovsky, encore une fois, c'est de la virtuosité. Mais la virtuosité, on sait comment l'aborder. Par le travail, par la mise en onde de différents passages, tout, enfin, on arrive à appréhender ça. Par contre, appréhender une grande arche comme l'opus 131, le dièse mineur, lorsque vous commencez, c'est peu de choses de dire ça, mais lorsque vous commencez le 14e quatuor de Beethoven, vous en avez pour 50 minutes, sans arrêt. Les seuls arrêts qu'il y a, ce sont des arrêts sur image, je veux dire, dans la musique, qui, en fin de compte, qui servent, étant donné qu'on ne peut pas aller plus loin, on s'arrête. Et on reprend d'une manière un peu plus apaisée pour repartir. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une... Vous sentez complètement dépassé. Alors, le but, c'est un petit peu le paradoxe du comédien, je veux dire, c'est de ne pas perdre pied, de se laisser aller, de contrôler la musique, mais de jamais, je trouve, se laisser aller à une forme de séduction ou à une forme de grand bonheur, de se laisser glisser dans une ligne mélodique. Je trouve que c'est vraiment la musique du contrôle et... de savoir comment, du travail, comment s'articulent les choses, qu'est-ce qu'on doit faire de tel passage, et un petit peu comme le pianiste, parfois, dans les sonates, ment un tout petit peu, enfin triche un tout petit peu avec la pédale, pour rendre des choses expressives ou pas, le quartettiste doit, parce que la puissance qu'on lui demande, la puissance expressive, la puissance sonore qu'on lui demande, doit tricher dans ses rapports, dynamique entre les différentes nuances. Donc tout ça est à mettre en... C'est un énorme travail.
Il y a une exigence de vérité ?
Ah oui, Ah, je crois que, oui, ça, je crois qu'on l'a souvent dit, c'est une image, mais c'est vrai que les quatuors de Beethoven, c'est une Bible pour nous. Enfin, je veux dire, c'est devant ça, devant l'Himalaya, je veux dire, vous paraissez tout petit. Donc, un quartettiste devant ces 17 quatuors, oui, on ne peut pas mentir. Je crois que quand vous entendez une intégrale Beethoven par un quatuor, c'est il n'y a pas d'artifice.
Pour aller dans ce sens, je pense à la grande fugue et au problème du dépassement de l'interprète. Et là, une chose, l'interprète doit aller à ses limites pour traduire la violence chtonienne de cette page. Et on a cherché à transcrire cette page pour orchestre, en croyant qu'il fallait reculer les limites du quatuor en donnant plus d'instruments pour qu'il y ait plus de puissance. Et en fait, c'est le contraire qui se produit, comme exactement. Si la grenouille voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Mmh. En fait, Beethoven a inventé avec cette œuvre l'œuvre la plus puissante de l'histoire de la musique de quatuor, et il l'a fait dans les limites du quatuor, parce que justement, il joue à l'extrême limite, à un moment où ce n'est presque plus possible. D'ailleurs, on se rappelle cette anecdote de Capet qui disait à une dame, oui, Beethoven, cette œuvre, il l'a composée après sa mort.
Tout à fait, non, mais ça c'est tout à fait essentiel ce que vient de dire Bernard, parce que j'ai joué la Grande Fugue à l'orchestre, et je peux vous dire que je n'ai pas ressenti, et j'ai écouté la bande de ce concert, je n'ai pas ressenti le quart de la tension de ce que je peux ressentir de quatre musiciens, quatre petits musiciens dans une salle de concert.
Chemin de la musique, le quatuor à cordes ou la conversation en chambre, par Christian Rosset, avec la participation de Bernard Fournier et Miguel da Silva. Réalisation, Olivier Daligo, Olivier Dupré, François Viette. Musique de Beethoven par les quatuors italiano, vegue et hongrois.